Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Bienvenue à Mythes et complots. Christian, considère-toi comme salué.
Mais merci, Jeff.
Aujourd'hui, nous allons étonner les plus sceptiques d'entre nous. Avertissement, on va vraiment parler d'un phénomène inexpliqué.
Voilà. Et c'est vrai que j'ai souvent la réputation d'être très réservé, sinon même très sceptique par rapport aux phénomènes paranormaux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui me fascine. Et non seulement il me fascine, mais j'ai peut-être un biais. Là. J'aurais tendance à dire que j'y crois. On s'entend bien que le mot croyance ici là, ne veut pas dire une croyance aveugle. Et on va le présenter tout au cours de cette émission. C'est-à-dire que les phénomènes dont on va parler, ce sont des phénomènes qui, dans certains cas, sont appuyés par des preuves, entre guillemets, des preuves statistiques, scientifiques, et qui permet un débat ouvert et sain sur la réalité de ces phénomènes.
Et étudié, observé par un domaine d'études, la parapsychologie.
La parapsychologie, qui maintenant, où on essaie de favoriser le terme psychologie plutôt que parapsychologie, parce que parapsychologie veut dire à côté de la psychologie, alors que dans bien des cas, les recherches menées au cours des 20 ou 30 dernières années dans ce domaine-là semblent indiquer que la psychologie n'a peut-être pas grand-chose à voir dans la réalité de ces manifestations. Alors, on essaie de trouver un terme plus approprié. Et la lettre psi, 23e lettre de l'alphabet grec, est le symbole de ces phénomènes dits paranormaux. Ça ressemble un peu à une fourche. Là. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas psychologie? C'est un terme qui avait été proposé par quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui était mon mentor à l'Université de Montréal, le professeur Louis Bélanger, qui est le père de la parapsychologie québécoise. C'est lui qui avait annoncé, qui avait proposé ce terme de psychologie. Et bien sûr, ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui.
D'ailleurs, on va faire l'émission en deux parties. Première émission aujourd'hui et la suite dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup trop à mentionner, à dire, des anecdotes et des précisions.
Voilà, c'est un sujet qui est excessivement touffu. Et il faut absolument réussir à passer au travers. Si on veut pas dire des bourdes, et on veut préciser aux auditeurs un peu quelle est la nature de ces phénomènes en prenant le temps de bien décanter l'information, je pense que 2 heures, ça ne sera pas de trop.
Et là, il y a des gens qui, depuis 2 minutes, c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet?
Oui, c'est vrai.
Alors, on va parler des sensitifs.
Voilà, les sensitifs. Et là, on va tout de suite préciser ce terme de sensitif parce qu'il est très galvaudé dans les médias. Certains appellent les sensitifs des voyants, des médiums. Donc, on a toutes sortes de noms. Bon, en parapsychologie, on fait une distinction entre un médium, qui est une personne qui prétend parler avec les défunts.
Oui.
Je n'ai pas à cautionner si oui ou non je crois au médium. On fera sans aucun doute une émission là-dessus. Mais les médiums, disons, pour le besoin de notre conversation d'aujourd'hui, les médiums, ce sont des gens qui prétendent parler avec les morts. Ce dont nous ne parlerons pas aujourd'hui.
Alors, un sensitif?
Un sensitif, ce sont des gens qui ont la réputation d'avoir une sorte de sixième sens, une perception extrasensorielle. Donc, je te rappelle que nos 5 sens connus sont la vision, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter. Donc, ce sont nos 5 sens. Et ces gens-là semblent obtenir une information par un autre médium, entre guillemets, média ici, j'entends, et non pas médium, celui qui parle avec les morts. Donc, à travers un autre médium qui leur permet de décanter une information qui est inconnue du reste des gens. Donc, ce sont le terme qu'utilise généralement la parapsychologie pour les décrire, ce sont des sensitifs.
Et dans le langage populaire, pour certains d'entre eux, on pourrait parler de voyants.
Voyant, bien sûr. Parce que lorsque l'on parle de ces sensitifs, on englobe à peu près l'ensemble des pouvoirs,
des dons paranormaux.
Voilà. Donc, on met tout ça, bien sûr, entre guillemets. Là, on marche sur des œufs ici. Là, on ne veut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis sur des définitions. Mais lorsque l'on parle de ces phénomènes paranormaux, on parle de télékinésie. Donc, le pouvoir de déplacer des objets par l'unique pouvoir de la volonté. De la télépathie. Hein? Oui. Communiquer de l'information uniquement par la pensée. Ou encore de la voyance. Donc, être capable de voir des choses en utilisant soit une habileté particulière, en touchant des objets, en regardant des photos, peu importe. En fait, je te dirais, Jeff, que l'une des bonnes descriptions de ce que sont ces phénomènes paranormaux, je ferai référence au roman d'abord de Stephen King, Carrie, et les deux adaptations, donc dans les années 70, et une adaptation plus récente de ce film, Carrie, où on voit cette jeune fille, Carrie White, qui jouit de certaines de ses habiletés. Hein. Elle est capable de déplacer des objets à distance. Oui. Ces pouvoirs-là ne sont pas induits par des revenants ou des fantômes. C'est elle qui, parfois, de manière incontrôlée, réussit à avoir un accès à son environnement sans utiliser les cinq sens connus.
Lorsqu'elle est fâchée ou chamboulée, là, ça se passe davantage.
Voilà. Donc, ce sont ces phénomènes qu'on pourrait décrire de façon générale comme étant les phénomènes paranormaux, les pouvoirs psychiques ou les pouvoirs psy. Appelons-les comme ça.
Dans la culture populaire aussi, on peut penser au personnage Charles Xavier, que j'ai nommé à quelques reprises dans l'émission, des X-Men, qui lui peut avoir son don de X-Men, c'est la perception spatio-temporelle. Alors, il est à un endroit, il peut voir ce qui se passe dans un autre pays, par exemple.
Et tu vas voir, cette faculté dont tu parles est une faculté qui a particulièrement intéressé les services secrets américains et on lui a donné le nom de Remote Viewing, la vision à distance. Et tu vas voir que le dossier est très étoffé dans ce domaine-là. Donc, notre question du jour, c'est, tu l'as compris?
Croyez-vous que des gens ont des pouvoirs paranormaux, des perceptions extrasensorielles?
Voilà.
Alors, 514-790-9850, 1-866-790-9850, vous pouvez nous écrire, mythe au pluriel, à commercialcogecomedia.com. On souhaite vous parler ce qu'on fera dans le deuxième bloc de l'émission.
Oui, puis peut-être que certains de nos auditeurs auront peut-être eux-mêmes vécu de ces expériences de télépathie, de synchronicité, donc des phénomènes étranges. Hein? Des gens, par exemple, moi j'ai souvent parlé avec notamment des jumeaux identiques. Et beaucoup d'entre eux me disaient, c'est étrange parce qu'à un moment donné, il y a une coïncidence. J'ai senti un malaise, par exemple, une violente douleur ou à la cheville. Ouais. Et au même moment, mon frère, jumeau identique, faisait du ski, par exemple, à Beauromont. Et à ce moment-là, très précisément, il s'est brisé la cheville. Donc, des coïncidences comme celle-là, comme s'il semblait y avoir un lien entre ces personnes-là dans l'invisible. Et c'est pas
un
forcément...
lien entre
les deux
les
personnes
atomes, entre dans la matière
telle
la théorie de la loi de l'attraction.
Ouais, c'est ça. Donc il existe depuis quelques années dans le domaine de la physique quantique et dans le domaine des phénomènes paranormaux, il y a quelque chose qu'on a appris et on sait que par exemple si on prend un atome et on le sépare de ses composantes, l'électron, le neutron, etc., et on envoie l'une de ces parties-là à l'autre bout de l'univers. Et là, soudainement, la partie que j'ai gardée ici, je décide, moi, de la faire vibrer à un rythme particulier. Oui. J'y impose une variation. Instantanément, sa contrepartie à l'autre bout de l'univers va également se mettre à osciller à la même vitesse. Ce n'est donc pas une information qui a été envoyée parce qu'elle aurait mis des années-lumière à se rendre à destination. C'est vraiment un lien instantané. En physique quantique, on appelle ce lien le lien quantique. Est-ce qu'il est possible que les êtres humains, quelque part, ont une espèce de lien un peu semblable à ce lien quantique qui pourrait peut-être, je dis bien un gros peut-être ici, expliquer certains de ces phénomènes paranormaux?
Alors, lorsqu'on parle de sensitif, on parle de surdoué.
Oui.
Et on a fait des expériences avec des surdoués dans les années 70, Christian.
Oui, parce qu'il faut savoir que cette idée-là de la recherche en parapsychologie, c'est une recherche qui est relativement récente. Hein? Elle est apparue au tout début du 20e siècle. Puis c'est amusant parce qu'elle s'est dissociée de la recherche sur les fantômes. Hein? À la fin du 19e siècle, c'était un peu l'âge d'or du spiritisme, la communication avec l'au-delà. Et quelques scientifiques ont commencé à s'interroger. Quelle est la réalité de ces communications spirituelles? Y a-t-il réellement des fantômes? Est-ce qu'on peut parler avec les défunts? Et peu à peu, ces gens-là trouvaient, les scientifiques qui s'intéressaient à ça, très rapidement, ils se sont aperçus que l'enquête sur les fantômes menait à peu près nulle part. On était dans un cul-de-sac. En revanche, certaines personnes semblaient jouir d'habiletés extraordinaires. Et là, peu à peu, les recherches en parapsychologie sont nées à ce moment-là. Donc, on est aux alentours de 1910-1920, les premiers groupes de recherche pour s'intéresser à ces habiletés, télékinésie, télépathie, voyance, clairvoyance, on commence à s'intéresser à ça. Et la prémisse de base, l'idée au départ était de dire, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Alors, testons ces gens-là et essayons de déterminer s'ils ont réellement des pouvoirs psy. Alors, déjà dans les années 60, c'est amusant parce qu'il y a toutes sortes d'éléments à saveur un peu politique qui interviennent là-dedans. Déjà dans les années 60, il faut savoir qu'on est en pleine guerre froide. Hein. Les Américains et les Russes se livrent un bras de fer pour savoir quel est celui qui aura la domination sur l'autre. Oui. Et là, on voit arriver des petits films, peut-être des films de propagande aussi que les Russes ont lancés comme ça, où on voit une ménagère de Leningrad du nom de Nina Kulagina, qui se trouve, on a l'impression qu'elle est dans sa cuisine, qu'il y a des scientifiques qui sont avec elle. Hein, ce sont des images, comme on dit, des images de fuite. Hein, comment elles ont été transmises aux Américains, peu importe, elles arrivent sur la table et là, on voit ces images. Kulagina est là, chez elle. Il y a des laborantins autour d'elle et elle semble être douée de la capacité de déplacer des objets par l'unique pouvoir de sa volonté. Alors, tu comprends que les Américains ne veulent pas être en reste. Et là, on se dit, ben, si les Russes font des recherches là-dedans, la parapsychologie, les pouvoirs paranormaux, ça nous intéresse aussi. Et très rapidement, des gens vont commencer à s'intéresser à ça. Aux États-Unis, ben, on va connaître également des surdoués. On se dirige vers des surdoués, c'est ce que l'on veut. Et parmi les surdoués, il y a un type vraiment intéressant qui s'appelle Ted Sirios. Ce Ted Sirios, il est né dans l'Illinois. C'est un type qui, bon, il faut vraiment se remettre, on est les années 60, les années 70, c'est très olé olé, là. Et à ce moment-là, ce Ted Sirios, un garçon d'ascenseur, peu cultivé, peu lettré, prétend avoir le pouvoir d'influencer des photographies. Donc, on lui donne un appareil photo de type Polaroid. Il se concentre sur une image et il réussit, dit-il, à projeter l'image sur la pellicule. Alors, on fait des expériences en laboratoire. Il y a des images que les gens peuvent consulter. Simplement, tapez dans votre moteur de recherche Ted Sirios et vous allez voir de ces images tournées en noir et blanc. On est dans les années 60. Et ce qui était amusant, plus Sirios était ivre, plus il réussissait bien ses performances. Alors, on lui donnait une bouteille de vodka. Et il y a des images qui sont croustillantes. On a un Ted Sirios, torse nu, à moitié ivre, dans le laboratoire, qui prend l'appareil photo. Et là, on comprend que l'expérience était menée de la sorte. On prenait des images à l'aveugle qui étaient cachées dans des enveloppes. Personne ne savait quelles images allaient être découvertes en laboratoire. On amenait Sirios et là, évidemment, il pigeait une enveloppe et par exemple, l'image qui sortait était une image de la Tour Eiffel. Je te donne cet exemple. Alors, on donnait l'appareil, on prenait un film neuf, on le déballait, on le mettait dans l'appareil photo, on le tendait à Sirios et Sirios le tenait devant lui. Il plaçait devant l'objectif et ça a soulevé la controverse. Il avait une espèce de petite bague en papier qu'il plaçait sur l'objectif, qu'il appelait son gizmo. Lui, il disait que c'était pour concentrer son énergie à l'intérieur, de focaliser vers un point. Et là, il se concentrait, et crois-le ou non, après quelques instants, il prenait la photo, il appuyait lui-même sur l'obturateur, et quand on sortait l'appareil, on sortait la photo du magasin, on voyait apparaître une image relativement floue, mais on reconnaissait les lignes de la Tour Eiffel. Donc, Sirios, c'était comme capable d'influencer la pellicule. Évidemment, des sceptiques ont dit, ouais, peut-être que Sirios cachait un dispositif à l'intérieur de cette petite bague en papier. Mais comment aurait-il pu deviner à l'avance quelle image serait choisie en laboratoire? Comment aurait-il pu faire monter ce canular? Il faut savoir ici aussi, bien sûr, les sceptiques ont raison de dire que l'expérience n'était pas nécessairement menée dans un cadre très rigoureux. On a un tel Sirios, torse nu, à moitié ivre, qui se promène dans le laboratoire. C'était croustillant un peu comme mesure. Mais quand même, les photographies de Ted Sirios sont restées remarquables.
Et d'autres tests dans les prochaines minutes, Christian, on va parler de Ganzfeld. Et si je comprends bien, l'enjeu de l'hégémonie mondiale serait passé, entre autres, par les surdoués, voilà, par des pouvoirs naturels qu'on a observés aux États-Unis et en Russie pendant la guerre froide. Tout ça est très intéressant. On vous demande, mesdames, messieurs, est-ce que vous croyez que des gens ont des pouvoirs paranormaux, des perceptions extrasensorielles? Vous écoutez Mythe et Complot, 514-790-9850, 1-866-790-9850. On revient dans un peu plus de deux minutes sur le réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian. Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Et on est dans les phénomènes paranormaux, dans les sensitifs. Alors, on est dans l'inexpliqué aujourd'hui. Toutefois, comme on disait au début de l'émission, par rapport aux sensitifs, des gens qui ont des dons de perception, par exemple, extrasensoriels, il y a un domaine d'études qui s'y est intéressé, la parapsychologie. On a fait une panoplie de tests. Et l'un des tests les plus populaires dans les années 70, jusqu'aux années 90 d'ailleurs, les tests de Ganzfeld, Christian.
Oui, absolument. Et quand on parle de don, il faut bien s'entendre, est-ce qu'il s'agit d'un don ou est-ce que c'est une habilité que tout le monde a? Par exemple, certains chantent mieux que d'autres, mais tout le monde est capable de chanter. Peut-être est-ce une habilité que tout le monde a?
Oui.
Et là où on arrive avec ces...
C'est bon ce que tu dis là. C'est... Peut-être qu'on aurait tous...
Voilà. Et cette expérience Ganzfeld, il faut bien comprendre, juste avant la pause, je t'ai parlé de Nina Kulagina, cette Russe apparemment qui avait le pouvoir de déplacer des objets à distance. Aux États-Unis, on a eu ce Ted Sirios qui était capable d'influencer des photographes. Donc, au début des années 60, les scientifiques ont beaucoup travaillé avec ces surdoués, des gens qui étaient capables apparemment de performances extraordinaires. Mais on comprend que ça prêtait le flanc à la critique parce qu'il y avait toujours des gens pour dire « Oui, mais est-ce que l'expérience a été menée correctement? Est-ce qu'on a suivi les règles d'étanchéité à la fraude? » Et moi, je n'y étais pas.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Les scientifiques ont décidé de se désintéresser des surdoués et plutôt se tourner vers monsieur et madame tout le monde. Alors là, ça permettait à n'importe qui, si on obtenait des résultats, ça permettait à n'importe qui, n'importe quel laborantin, n'importe où dans le monde, de pouvoir reproduire l'expérience. Et on le faisait par méta-analyse. Donc, on faisait des centaines, des milliers d'essais et on regardait sur le plan statistique ce que ça donnait. L'expérience Ganzfeld était relativement simple. On prenait une cible et on prenait en fait un émetteur et un récepteur. Donc, le récepteur était placé, donc, monsieur et madame tout le monde, on plaçait une personne dans un environnement de détente. Il y avait généralement une espèce de privatisation sensorielle. Généralement, on bloquait les yeux,
les oreilles. Un studio insonorisé.
Noir. Voilà. Et ces gens-là, et dans une autre pièce, on mettait l'émetteur. Et là, on prenait des photographies choisies un peu au hasard, en double aveugle. Et là, la personne se concentrait et tentait d'émettre l'image ou à son vis-à-vis qui était dans l'autre pièce. On comprend ici qu'on ne demandait pas aux gens de décrire de manière détaillée la photographie, mais simplement d'évoquer des thèmes et le discours était classé en significatif, peu significatif ou très significatif. Donc, si par exemple, l'émetteur voyait un groupe d'enfants qui jouaient au ballon dans la rue et que le récepteur disait « je vois un champ avec des fleurs », on aurait classé sa description comme étant pas significative. Mais si, en revanche, le récepteur disait « je vois des enfants, ils semblent s'adonner une activité entre eux », alors là, on aurait classé cette image-là comme étant très significative. Les expériences Ganzfeld ont été menées pendant des années sur des centaines, sinon des milliers de sujets. Et ce que l'on sait, c'est que les performances semblent légèrement, je dis bien légèrement, au-dessus du hasard.
Oui.
Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas fantastique, c'est pas extraordinaire, c'est pas Superman, mais il y a quelque chose qui se passe, et non seulement il y a quelque chose qui se passe, mais on sait que les gens qui avaient des liens émotifs entre eux, donc un compagnon avec son épouse, une mère et sa fille, les gens qui avaient des liens émotifs entre eux réussissaient dans évidemment toujours sur le plan de la statistique, réussissaient de meilleures performances que de parfaits étrangers.
Et à la fin dans les années 80-90, à la fin de ces expériences-là, on a automatisé, informatisé. Et après une des dernières méta-analyses, on confirme que le taux de réussite est autour de 32 %. Ça veut dire une chance sur 10 000 que ce soit du hasard.
Voilà. Donc, on a une preuve statistique. Et là, il faut bien comprendre ici, là, on précise bien, une preuve statistique n'est pas une preuve scientifique. Dans certains domaines scientifiques, par exemple, si on teste des médicaments, les scientifiques vont reconnaître que l'élément statistique devient force de preuve. On sait également, pour développer des modèles de cosmologie, par exemple, on va accepter des éléments d'ordre statistique. Mais en parapsychologie, on demande plus. Et il faut le comprendre aussi, Jeffrey, parce que les phénomènes paranormaux flirtent avec le religieux. Hein? Entre la personne qui dit « je vois des fantômes, j'ai le pouvoir de communiquer avec des esprits et je suis capable, moi, par exemple, de guérir des malades avec mes mains et de l'énergie », on n'est pas très loin de la personne qui dit « je parle à Dieu, je vois la Vierge Marie et à travers moi, Dieu se manifeste et je guéris des gens », comme les preachers aux États-Unis. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une zone grise et la science et la religion n'ont jamais fait bon ménage. C'est peut-être pourquoi le domaine de la science demande davantage de preuves avant de dire « oui, il y a une réalité à ces phénomènes paranormaux et on ne peut certainement pas leur en vouloir. » Mais néanmoins, on a à ce moment, au moment où on se parle, on a une preuve statistique que quelque chose se passe.
Et on va parler avec Jocelyn. Jocelyn, vous êtes jumeau. Vous avez un jumeau, Jocelyn.
Oui, j'ai un frère jumeau identique.
Donc, est-ce que vous croyez qu'on peut avoir des dons paranormaux, des perceptions extrasensorielles? Ou encore, est-ce que vous avez vécu une expérience là, avec votre jumeau, une expérience de connexion psychique là?
Oui, moi, si vous me laissez du temps, je vais vous expliquer la mécanique du fonctionnement. C'est que moi, il y a quelques années, c'est pour ça que mon jumeau, ça arrivait à l'occasion, que j'avais comme envie de l'appeler. C'est comme une envie. Mm-hmm. C'est dur à expliquer, là. Je l'appelais, puis il disait qu'il pensait à moi à ce moment-là.
OK.
Ça nous arrivait à quelques occasions, étant donné qu'on est jumeaux. Puis là, j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau-là, à savoir c'est quoi la mécanique, comment ça fonctionne. Puis je sais pas si vous sonnez les vieilles radios, les anciennes radios. Quand on tournait des postes, là, ça grichait. Puis à un moment donné, on pognait une onde, là. Comme 98.5, il faut vraiment aller 98.5 pour ouais. poigner votre canal.
Ouais, bien syntonisé.
Moi, je conçois que c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a des personnes, un peu comme la musique, il y a des gens qui sont sensibles à la musique, ils comprennent la musique, on essaie d'expliquer pourquoi, mais on dirait que leur câblage neuronal est différent des autres personnes. Mm-hmm. Et moi, je vois la même chose au niveau du câblage sensoriel de ces personnes-là, sont beaucoup plus capables de capter des ondes, de sentir des choses.
Vous voulez dire les jumeaux, là?
Les personnes ordinaires, ça peut être des personnes ordinaires
ouais,
aussi.
Oui, effectivement.
Étant donné qu'on est des jumeaux, c'est sûr qu'on a plus de probabilités, c'est évident.
Voilà. Et en fait, ce que vous expliquez, c'est un peu, je dirais, la position actuellement de la parapsychologie. C'est de dire, tous les gens ont certainement ces habilités, mais certains se syntonisent mieux sur certaines
Exactement.
Chaînes que sur d'autres. Et ces gens-là deviennent, ou bien parce qu'ils ont un lien émotif entre eux, ou bien parce qu'ils ont un lien familial, comme le vôtre, par exemple, et les jumeaux, ou bien ce sont des gens qui ont un meilleur talent, un peu comme des chanteurs vont mieux chanter que d'autres. Oui. Donc, ces gens-là ont un plus grand talent à faire ça. C'est actuellement la position de la parapsychologie, mais il faut bien s'entendre, on en est ici, encore une fois, qu'à l'émission d'hypothèses, parce que c'est très difficile de vérifier des hypothèses comme celle-là, parce qu'on travaille avec du matériel humain. Hein, on peut pas arriver, on peut pas prendre un jumeau et dire « OK, on va le mettre dans une pièce, on va lui donner un coup de marteau sur le doigt, puis voir si son frère à côté va ressentir la douleur. » Si on comprend, là, évidemment, on fait une sorte de caricature,
un peu,
là. Ouais. On fait une caricature, bien sûr. Mais on comprend que ça devient difficile quand on travaille avec du matériel humain de pouvoir faire des démonstrations éloquentes. Mais c'est vrai que ce que raconte monsieur est possiblement une des avenues qu'il faut explorer.
Merci, Jocelyn. On va parler avec Richard. Bonjour, Richard. Est-ce que vous croyez au phénomène, aux dons paranormaux, Richard?
Non, pas vraiment.
Non, vous êtes catégorique là-dessus, là. Vous croyez à rien de tout ça?
Ben non, voyons donc, quand t'es mort, t'es mort.
Mais non, on n'en est pas dans le domaine de la mort, on parle avec des vivants.
Ça, c'était le sujet de la semaine passée. On va parler. Merci Richard d'avoir appelé, c'est très apprécié. Marie-Claire, bonjour, est-ce que vous croyez aux dons paranormaux?
Je suis là, j'étais un peu plus loin, je vais fermer mon radio.
Bon. Oui.
Voici, parfait. Moi-même, j'ai vécu des phénomènes, pas souvent, mais un peu particulier. Je peux vous en raconter un.
Allez-y.
C'est pas si loin. Ça a le rapport à, vous savez, le meurtrier, comment est-ce qu'il s'appelait, là? Celui qui a tué un étudiant chinois.
Magnota.
C'est ouais. ça, Magnota. Voici. Bon, t'expliquer, moi, je suis une personne très, très sensible. Mm-hmm. Et ça s'est passé comme dans le mois de juin 2012.
Quelque chose comme ça, là. C'était durant l'été, je me rappelle, oui.
Que j'ai toujours été, tu sais, je suis une personne qui vit seule depuis plusieurs années. Puis quand j'étais jeune, j'étais fille unique. Je suis très, très, très sensible.
Oui.
Trop. Ça a été une faiblesse dans ma vie. Je suis facile à atteindre.
Et okay. L'été 2012, l'été du meurtre, vous avez senti...
Voici. J'étais dans ma cuisine. Et puis c'était tard le soir. Et j'avais que la radio d'allumée. Et je me promenais dans la maison. Il faisait chaud. Dehors. Un peu dans la maison. C'était à Ville d'Anjou. Puis là, à tous les demi-heures, peu importe ce que j'écoute à la radio, on prend un break pour les nouvelles, puis on annonce encore les mêmes nouvelles épouvantables à vous faire hérisser les cheveux sur la tête, mm-hmm. tout à l'envers à cause de ça. Parce que je sens de la haine, tu sais, j'ai une grosse réaction.
Oui.
Puis tout d'un coup, tu sais, je peux pas dormir, ça je le sais. Ça fait que je dois vous dire, des fois, je fume du pot. À ce moment-là, j'en ai fumé un peu. Parce que ça te met dans ce que les Anglais appellent « an altered state
mm-hmm. »,
un état
altéré de conscience.
Second, un
oui.
peu. Et là, je pense pas à ça. J'essaie d'oublier ça. J'écoute quelque chose d'intéressant, mais ça revient tout le temps à chaque nouvelle, hein?
Mm-hmm.
Brancher sa radio. Tout d'un coup, vers le milieu de la nuit, 2-3 heures du matin, je vois quelque chose, ça m'est déjà arrivé bien longtemps, comme des décennies avant. C'est comme une image sur un écran de télévision en noir et blanc, dans des teintes de gris.
Oui.
Et je le vois très brièvement, et je vois le mot Berlin. B-E-R-L-I-N.
OK.
Bon, j'en prends note, mais pour moi, ça ne veut pas rien dire encore. Mm-hmm. Le prochain set de nouvelles qui arrive une demi-heure plus tard, en l'écoutant, je vois encore une image comme en gris et blanc, comme sur un écran de TV. C'est comme une image qui n'est pas physiquement devant moi, mais devant mes yeux. Et je vois le mot Berlin.
Mm-hmm.
Puis là, un peu plus tard, parce que ça m'empêche de dormir, je vois que... ils sont rendus qu'ils cherchent en Europe.
Oui.
Qu'il y a eu un avion est parti en Europe, ils cherchent à Paris.
Oui.
Mais moi, le mot Berlin revient encore 3-4 fois.
Oui.
Puis finalement, je comprends, je me dis, écoute, c'est en Europe, puis j'ai lu assez pour savoir que Berlin, c'est un endroit où il y a beaucoup de dépravité. Tu sais, dans le underground de, mm-hmm. de Berlin, mm-hmm. c'est une des pires places, hein?
Mm-hmm.
Pour, comment dire en français, depraved.
Oui, oui.
Puis ça, et finalement, c'est très dépravé.
Le lien entre Berlin et Magnota, quel était-il?
C'est ça, ben c'est très dépravé, Magnota, ce qu'il a fait. Puis Berlin, c'est un endroit de dépravation connu.
Oui, puis il a été arrêté à Berlin.
Il faudrait que j'appelle Interpol.
Ah oui? Oui.
Mais ils vont me prendre pour une folle, ils doivent recevoir des milliers d'appels. Puis, quelques heures plus tard, où est-ce qu'ils l'ont trouvé?
Ils l'ont trouvé à Berlin. Exact.
Marie-Claire.
J'ai reçu comme un message. Vous savez, excusez, je vais continuer vite.
Ben, on doit s'arrêter là-dessus, c'est mais merci antennes. Beaucoup de votre appel.
Oui,
c'est,
oui.
C'est très apprécié. Parce que là, on a un exemple de quelqu'un qui nous a raconté quelque chose qui s'apparente à une expérience de vécue par une sensitive.
Voilà, on est ici dans le... évidemment, c'est une anecdote. Et on le comprend, en science, les anecdotes ne sont pas valables. On aurait beau multiplier par 1000 les anecdotes, une anecdote reste une anecdote. Mais l'accumulation de ces anecdotes, évidemment, nous amène à réfléchir sur la question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une réalité derrière ces perceptions extrasensorielles?
Est-ce que vous croyez à ces perceptions, à ces dons paranormaux? On revient dans à peu près 2 minutes sur le réseau Cogeco.
OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco.
Et là, on est dans l'inexplicable, on
Absolument.
Est dans les sensitifs, les dons paranormaux. Marie-Claire, avec son image très forte de rêve prémonitoire, elle voyait Berlin dans son rêve. On était dans l'affaire Magnota en 2012 et ça arrive, quelques heures plus tard, elle l'apprend aux nouvelles.
On arrête Magnota à Berlin, en effet.
Alors, les rêves prémonitoires, évidemment, on va en parler.
Oui.
C'est pas dans cette émission, dans une émission ultérieure.
Oui.
J'aimerais, Christian, qu'on s'attarde sur l'expérience de René Péoc.
Oui, parce qu'on a parlé depuis le début de l'émission, on s'est dit peut-être que c'est une faculté ou une habilité que tous les êtres humains ont, cette habilité de pouvoir psy. Donc, télépathie, psychokinésie, peu importe. Et certains seraient plus doués que d'autres. Mais peut-être aussi que c'est une faculté, une habileté que tous les êtres vivants ont. Et c'est un peu en 1980 ce qu'a pensé ce médecin, René Péoc. Il a pris, lui... Bon, il faut d'abord comprendre au départ ce qu'on appelle l'empreinte de Lorenz. Ce type Lorenz, c'est un Konrad Lorenz, c'est un biologiste, un zoologue autrichien. Et il a prix Nobel, d'ailleurs, de 1973. Et ce Lorenz, lui, il a démontré que dans le domaine animalier, certains animaux, en particulier certains oiseaux, vont développer un lien immédiat, un lien de maternité avec le premier objet avec lequel ils seront en contact dans le monde physique.
Premier objet qui bouge.
Or, c'est ce qu'on appelle l'empreinte de Lorenz. À partir de ce principe-là, donc, des oiseaux vont considérer, par exemple, un abreuvoir peut être leur mère, par exemple.
Ouais.
Donc, à partir de ce principe de l'empreinte de Lorenz, Péoc va développer le concept suivant. Il va développer une petite machine qui se déplace de manière tout à fait aléatoire.
Ouais.
Et il prend des poussins et au moment où les poussins vont éclore, il place cette petite machine qu'il appelle le ticoscope, il le place tout près des poussins et immédiatement, bien sûr, les poussins adoptent la machine comme étant leur mère.
Oui.
À partir de ce lien, à partir du moment où l'empreinte de Lorenz s'est imposée aux poussins, Péoc va prendre les poussins, les placer dans une cage devant une sorte de grande plateforme. Hein. Imaginons un peu pour les besoins de l'imagerie pour les auditeurs. Imaginez-vous une grande feuille qui fait peut-être 1 mètre sur 1 mètre. Il place quelques poussins dans un coin et il place son ticoscope au centre. Et le ticoscope, bien sûr, a un marqueur pour décrire, pour qu'on puisse voir sur la feuille de papier son mouvement. Et invariablement, de manière statistique, le petit ticoscope va se déplacer, même s'il se déplace de manière aléatoire, progressivement, il va se diriger vers les poussins. Comme si les poussins attiraient la machine vers eux par leur piaillement. Et éventuellement, bien sûr, ça prête flanc la critique. Des sceptiques vont dire « Oui, mais peut-être que la surface utilisée par le scientifique, par Peok, n'était pas suffisamment grande et comme la machine a un mouvement aléatoire, peut-être que c'est essentiellement le hasard. » Alors, il va quadrupler sa surface, plaçant les poussins encore une fois dans un coin de la feuille. Et là, à nouveau, son ticoscope, sur le toujours au plan statistique, hein, de manière au-dessus des normes du hasard, l'appareil va se diriger vers les poussins comme si les poussins influençaient le mouvement aléatoire de la machine. Ce qui laisserait donc supposer que cette habileté-psy d'avoir accès à l'environnement par la pensée n'est pas seulement une habileté humaine, mais serait une habileté de tous les êtres vivants.
Et d'ailleurs, suggestion sur YouTube, on peut voir René Peok, le docteur, « L'esprit agit-il sur la matière? » Si vous écrivez dans la barre de recherche les mots précédents, vous trouverez la vidéo et vous serez témoin, vous aussi, d'une scène exceptionnelle.
C'est exceptionnel, absolument.
Le petit poussin qui attire la
vers
petite
lui.
Machine et qui tombe instantanément en amour avec la machine. Oui, on est là devant un scénario de film de Walt Disney, Pixar. Pourrait d'ailleurs suggérer ça pourrait faire un bon film pour enfants, certainement. C'est très cute.
Ouais.
Alors, René Peok, docteur René Peok sur le YouTube. On va parler à, je me rappelle plus du nom, c'est Pierre. Bonjour Pierre, est-ce que vous croyez aux dons paranormaux?
Je pense que oui.
Est-ce que vous avez vécu vous-même une expérience de ce type?
Ben moi, c'est plus que je vous dirais, c'est par des rêves prémonitoires.
OK,
c'est,
allez-y.
Je rêve des choses, mais ça arrive, comment je pourrais dire, le lendemain. Là.
OK. Et pouvez-vous nous donner un exemple? Parce que c'est vrai que dans le domaine de la parapsychologie, c'est vrai que le rêve... Parce que quand on parle de ces phénomènes paranormaux, souvent ces phénomènes paranormaux vont être favorisés dans des états modifiés de conscience. Or, le sommeil, le rêve, est un état modifié de conscience.
Oui.
Alors, c'est sûr que ça fait l'objet d'une intense recherche dans le domaine de la parapsychologie. Allez-y avec votre exemple.
Ben, deux décès. Un, c'est une personnalité publique.
Mm-hmm.
On avait une connaissance en commun. J'ai rêvé à lui cette nuit-là. Puis là, ben, ah ouais, Pierre, fonce, apporte ton démo. Ben, j'ai dit, j'aurai pas le temps. Mais ça s'arrête là. Mais le lendemain matin, j'ai appris le décès de Paul Vincent.
OK.
Un autre ami qui travaille dans le domaine du spectacle, lui aussi, puis il est donné vers la fin de sa vie, là, à 60 quelques années, il faisait des pubs promo radio.
OK.
En direct, puis tout ça, là. En tout cas, il est mort lui aussi. Puis pour ma mère, ben des fois que je vais rêver quelque chose, maman, avant qu'elle décède, elle me grattait dans la paume de la main. Elle était là, Pierre, quand il n'y en aura plus, il va en avoir encore.
Okay.
Puis des fois, mettons, je dis, je vais trouver quelque chose ou quoi que ce soit. C'est drôle, je m'adonne et je revois même la scène de mon rêve pendant que je suis rendu.
Okay.
Et je trouve.
Donc, vous considérez que par le biais du rêve, vous obtenez un peu cette information qualitative qui vous est transmise, on ne sait pas trop comment ni pourquoi.
C'est arrivé trop souvent.
Okay.
Même le père de ma meilleure amie, puis lui, il était à la maison, OK, il était malade, ça faisait 15 ans.
Oui. Mais ça, c'est...
Mais dans mon rêve, je ne voyais pas. J'étais dans un salon mortuaire, puis il y a une place que je ne vais plus, même si c'est des proches.
Oui.
Mais je voyais pas qu'il était dans la tombe, mais je voyais sa mère qui pleurait. J'étais allé sonner à sa porte ce matin-là.
OK.
C'est sa sœur qui a ouvert la porte. Nicole n'est vraiment pas dans l'état pour parler.
OK.
J'avais compris. Ils m'ont même pas dit que son père était décédé. Mais OK. C'était ça.
Pierre, c'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci beaucoup.
Des phénomènes intéressants et cette vision, ben souvent, lorsque l'on parle avec des gens, des sensitifs, ben on comprend que la vision n'est pas toujours aussi colorée ou aussi précise que l'on voudrait. Ça aussi, c'est un des problèmes parce que, comme le racontait Pierre, il voit des informations, il a accès à des informations, mais souvent, ces informations-là sont un peu floues et ce n'est que la suite des événements qui vont lui permettre de préciser la nature de l'observation.
Et dans un instant, Christian, on va parler du projet Stargate.
Le projet Stargate.
Vous écoutez Mythes et complots, on est de retour après ceci.
OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco.
Et aujourd'hui, les sensitifs, et Christian et moi, j'ai l'impression qu'on a été un peu sensitifs en préparant cette émission-là, en se disant, dès le début, ben, on va faire deux parties.
Deux parties, parce que le sujet est visiblement beaucoup trop étoffé, beaucoup trop de matière pour pouvoir la livrer comme ça en une heure, sans dire des bêtises, et en même temps, on ne veut pas non plus laisser les auditeurs avec une impression que l'information n'a pas été livrée de manière adéquate.
Oui.
Écoute, Jeffrey, au début de l'émission, on a parlé de ce bras de fer entre la Russie et les Américains durant la guerre froide et ce qui a éventuellement amené les Américains à s'intéresser aux phénomènes paranormaux. Mais tu sais que au début des années 70, cette histoire-là avait pris une telle proportion qu'on a assisté à la création d'un projet qui, à mon avis, est peut-être l'événement le plus marquant de toute l'histoire de la parapsychologie. C'est le projet Stargate. Et le projet Stargate, il faut bien comprendre qu'on est dans cet univers. Hein, c'est-à-dire qu'on croit, on cherche à démontrer si les pouvoirs paranormaux existent. Et s'ils existent, s'ils ont une application possible. Alors, dès le début des années 70, les services, en fait, trois services vont se mettre ensemble. La CIA, la DIA, qui est la Defense Intelligence Agency, c'est un peu comme la CIA de l'armée. Et ensuite, le ministère de la Défense lui-même. C'est trois organisations. Et il y a aussi la NSA, la National Security Agency. Ces trois organisations vont se mettre ensemble à Fort Meade, au Maryland, et ils vont développer ce projet Stargate. Le projet Stargate est de constituer, crois-le ou non, une sorte d'équipe, un commando de voyants, de psychiques comme ça, qu'on va placer dans des laboratoires. Ces gens-là, on leur donne des cartes sur lesquelles n'apparaissent, ou des photographies satellites, sur lesquelles n'apparaissent à peu près aucune information qualitative. Ces gens-là doivent se concentrer sur ces cartes et essayer de voir des images, se projeter dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le remote viewing, la vision à distance.
Oui.
Et crois-le ou non, entre 1972 et 1995, donc durée de temps de ce projet Stargate, à un moment donné, on s'est trouvé avec une équipe d'une vingtaine de voyants, comme ça, qui essayaient de trouver des cibles. Ils auraient réussi des coups tout à fait spectaculaires. Durant la guerre du Vietnam, par exemple, ils auraient réussi à localiser des caches d'armes. On dit qu'ils auraient également réussi à localiser des rampes de lancement de missiles Scott durant la guerre du Golfe. Ils auraient même contribué à la libération du général James Dozier, qui avait été capturé en décembre 1981 par des milices en Italie, les Brigades Rouges. Et il a été libéré une quarantaine de jours plus tard, apparemment sur des informations transmises par ces super voyants du projet Stargate.
Donc, une implication dans l'espionnage. Est-ce que l'implication dans l'espionnage de ces voyants américains vient après celle du KGB en Russie ou avant?
Ça vient après celle du KGB.
Ça vient en réaction.
Ça vient en réaction parce qu'on voulait être certain que les Américains voulaient être bien certains de ne pas se faire damer le pion par les Russes sur le plan de la recherche en parapsychologie. Lorsque le projet était abandonné en 1995, ce qui est super intéressant dans ça, c'est que l'armée n'a pas dit ces phénomènes n'existent pas, mais comme ils étaient trop aléatoires, un peu comme Pierre qui disait « je vois des choses, mais je ne vois pas la personne qui est dans le cercueil », on s'est aperçu que oui, il y avait sur le plan statistique quelque chose qui se passait, mais parfois les visions des voyants étaient trop imprécises pour qu'elles aient une utilité sur le plan stratégique.
Ouais, je ne veux pas déployer des forces militaires
sur
n'importe où.
Sur des perceptions quand c'est pas plus précis que ça. Donc, on a abandonné le projet, non pas parce qu'il n'y avait rien qui se produisait, mais souvent, l'information était trop imprécise pour avoir une véritable qualité sur le plan stratégique.
Alors, la suite sur Stargate, parce qu'on n'est pas assez...
C'est quelques mots, oui, absolument, c'est quelques mots.
La semaine prochaine, à l'émission, on va parler aussi, dans une émission ultérieure, à propos des sensitifs, des dons paranormaux, de guérisseurs.
Oui.
On va parler également de d'autres expériences.
On va parler de l'implication des médiums, de ces voyants, dans les enquêtes policières.
Le Québec a été le théâtre d'une enquête policière qui s'est conclue suite...
Voilà.
Des révélations d'un voyant.
Absolument.
Mais quand tu m'as raconté cette histoire-là, et tout le monde dans l'équipe, on était sur le derrière.
Ouais.
On était bien assis et bien gavés de cette histoire-là. Très impressionnante. Alors, la semaine prochaine, à l'émission, on reviendra sur cette enquête policière qui s'est soldée suite aux propos d'un voyant.
Absolument.
Alors, juste rappeler, Christian, en terminant ta conférence, nos ancêtres, les extraterrestres.
Avec un point d'interrogation, c'est la semaine prochaine, c'est samedi prochain, 14 octobre, et ça se tient dans l'Est de Montréal. Toutes les informations sur mon site web, le christianpage.ca, et on va passer toutes... on va passer tout en revue, l'ensemble de toutes ces histoires voulant que les extraterrestres soient intervenus au cours de l'histoire de l'humanité pour contribuer à des développements soit technologiques ou architecturaux.
Alors, synthèse rapide de l'émission d'aujourd'hui, les sensitifs, des gens avec des dons paranormaux se sont impliqués dans des enquêtes policières, en bourse, en politique, en espionnage. On y reviendra la semaine prochaine. Mais il faut retenir qu'une preuve statistique n'est pas une preuve scientifique.
Scientifique, voilà. Et c'est vrai qu'on est dans le domaine de l'anecdote. Et sur le plan de la science, même si pour le commun des mortels, ou bien souvent, peut-être même aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, ces preuves semblent tellement convaincantes, mais c'est vrai que la science demande plus. Mais on ne doit pas perdre de vue l'intérêt.
Merci, Christian.
Ça m'a fait plaisir, Jeff.
La suite, la semaine prochaine. Merci à Catherine Huet, Valérie Baudouin, Mario Gélanglois à la réalisation. Ici Jeffrey Subrani, je vous souhaite un excellent dimanche, Christian. La semaine prochaine, 14h.
Absolument.
C'est sur ce notre départ.